Voilà, bonjour. Alors, il y a un test ce matin qui n'est pas vous, mais qui est le mien. Les femmes nous disent toujours qu'on est monotâche. Vous allez avoir une démonstration aujourd'hui, si c'est vrai ou pas. Pourquoi ? Parce que j'ai une commande ici pour mon ordinateur et une commande ici pour l'écran. Alors, s'il y a un décalage, on verra, c'est un test. C'est vous, d'accord les hommes, c'est ce qu'on nous dit toujours, qu'on est monotâche. Oui. Ça nous arrange bien. Voilà. Donc, c'est un peu un test. Hier, j'écoutais une émission, puisque en fait, j'étais en train de revoir en fait, un petit peu ce qu'on allait voir aujourd'hui. Et puis, je suis allé sur YouTube, vous savez, en surfant. Et il y avait un journaliste qui a étudié la persécution. Un Français. Pendant 8 ans, il a écrit un livre sur ce sujet. Et puis, il n'était pas chrétien. Je dis bien, il n'était pas, il n'est toujours pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme, il est allé dans un mariage en Kabylie. Et ce qui l'a frappé, c'est que les gens se mariaient dans une cave. Alors évidemment, lui, philosophe, français, dit, mais pourquoi est-ce qu'il se marie dans une cave ? On lui a dit, mais parce que c'est des chrétiens. Et là, il a eu une attitude qui est tout à fait normale. Il dit, mais comment ? Ça fait de ça 8 ans, donc comment au 21e siècle, on doit être forcé de se marier dans une cave ? Est-ce qu'il a lancé sa démarche ? Il est parti, donc 8 ans d'études sur le christianisme pour en arriver à une conclusion que nous, on connaît déjà en tant que chrétiens, que c'est le peuple le plus persécuté. Il a énuméré un nombre qu'on utilise aussi dans Portes Ouvertes, c'est-à-dire 200 millions de personnes qui souffrent à cause de leur foi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est toujours pas chrétien. Mais quand il a vu la détermination, parce qu'au début c'était de la théorie, il s'est dit « je dois quand même aller dans le pays ». Alors il a fait une vingtaine de visites dans des endroits cachés, donc c'est plutôt quelqu'un de courageux. Et il a dit, il a eu deux choses. Une, ce qui l'a frappé, il s'est dit, mais si ces gens ont une foi pareille, Dieu révèle-toi. Alors, c'est un bon sujet de prière, que Dieu se révèle à lui. Pour l'instant, il ne l'est pas. Mais il se disait, mais comment est-ce possible que, malgré tous les ennuis qu'ils ont, ils continuent de croire? Et ça l'a touché. Et il n'est pas chrétien pour autant. Mais la persécution est quelque chose qui interpelle. Qui nous interpelle. Alors, je vous apporte les salutations du groupe de Romanel. Je ne travaille pas, au fait, avec Portes Ouvertes. Je suis un bénévole. Je suis dans l'enseignement pendant la semaine. Et puis, à l'occasion, quand ils ont trop de visites, ce qui est bon signe pour l'œuvre, alors on est plusieurs, comme moi, à aller dans les églises. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir vous trouver. Là, je vais essayer de revenir en arrière. Parfait, je découvre. Il était une fois un homme qui avait à cœur de rencontrer d'autres chrétiens et qui décida d'aller à leur rencontre. Ça, c'est comment on commence un conte, une histoire. Il était une fois. Et là, ce qui est fantastique dans ce sens-là, c'est que ce n'est pas simplement un conte, c'est une réalité. Le contrebandier, ou on appelle chez plutôt frère André, est parti en 55 pour voir rencontrer les chrétiens. Et c'est quand il est allé dans le pays, à l'époque donc le bloc communiste, qu'il s'est rendu compte, il a commencé à comprendre ce que c'était la persécution, qui était larvée, cachée, et qui a donné, au fait, sur son cœur, un mouvement. Et je pense que si on parle de persécution, c'est plutôt une question de cœur. Pas d'intellect. On est rarement, la compassion, c'est rarement intellectuellement qu'on la ressent. Hein. C'est notre cœur qui doit être touché. Et quand on vient à Christ, il y a une dimension qu'on rajoute, c'est-à-dire cette notion du corps de Christ qui est franchement difficile à comprendre pour quelqu'un de l'extérieur. Nos frères et sœurs, des fois on ne connaît même pas le prénom, hein, mais c'est un frère, on sait. Donc cette idée a démarré il y a plus de 60 ans pour en être aujourd'hui à plus de 60 pays où il y a de l'aide. Et ce que j'apprécie dans cette image, c'est nous sommes portes ouvertes. Alors bien sûr, ça, on voit que ça a été repris hein, de d'autres histoires, mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. Nous. Attendez, je passe trop vite. Je suis pas encore très très habile avec. Il est beaucoup plus sensible que le mien. Quand je vous aurai tout montré, il n'y aura plus l'effet de surprise. Vous pourrez commencer par la fin, et puis à un moment, on sera ensemble. C'est ce nous. Nous sommes qui dénote cette volonté de travailler ensemble. Parfait. Je vous ai mis sur votre chaise ces différentes informations qui nous permettent au fait de se tenir au courant. Et si vous regardez à la page 5 de ce document, l'image devait apparaître quand je voulais, mais bon, elle est déjà là. On y apprend la difficulté des chrétiens face à des situations de la vie courante. Exemple, interdiction d'accès à l'eau potable. Ils avaient un puits en commun. Et puis, l'une des personnes s'est convertie. Alors, depuis ce moment-là, l'autre lui a dit, tu vas chercher ton nom ailleurs. C'est un détail. Mais c'est une persécution. Alors, les très spirituels, ils diront, oui, mais gloire à Dieu, il appartient à Christ. Ouais, d'accord. Mais quand c'est tous les jours, c'est là le problème, c'est quand ça dure. La persécution, si c'est une fois, on se dit, bon, ben voilà, mais quand ça dure, c'est tous les jours. Hein, l'eau, c'est tous les jours. Alors, on se dira, mais écoutez, c'est bien votre message, mais pourquoi est-ce qu'on ne prépare ça la semaine avec un peu le groupe, vous savez, ceux qui soutiennent l'évangélisation, ou ceux qui vont dans la rue, le groupe des spécialistes. Des fois, ça nous arrange bien, hein, le groupe des spécialistes. Ouais, moi, je n'ai pas tant ça à cœur, mais quelqu'un le fait pour moi. Ben on pose la question, est-ce que c'est juste de ne pas aborder ça devant tout le monde? Non. C'est pas juste. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Des fois, c'est facile d'aimer son prochain qui est au loin. Mais le prochain qui est sur le même palier, des fois, c'est plus dur. Alors, des fois, on prie pour l'Église persécutée, et puis, moi, ça m'est arrivé une ou deux fois, puis le Seigneur, il vous répond, oui, d'accord, mais t'en fais quoi de ton voisin, là? T'es d'accord? Lui, là-bas, c'est facile, mais ici, qu'est-ce que t'en fais? Donc, on voit que c'est vraiment une question de relation. Et la persécution, c'est une question de garder la relation, malgré les difficultés. Étrangement, les chrétiens, quand ils vont aider sur place, on leur dit « Oui, mais vous soutenez que les chrétiens. » Est-ce que c'est juste de soutenir pas que les chrétiens, mais les chrétiens d'abord? Est-ce que c'est juste? Eh oui, pratiquons le bien envers tous et surtout envers, et particulièrement, c'est encore mieux, envers nos proches. Nos frères dans la foi. Donc c'est juste de soutenir nos frères et sœurs. Et de parler de l'Église persécutée, de revenir comme ça, hein, c'est pas qu'on n'a qu'un seul sujet, mais quand on a ça à cœur, c'est nécessaire d'en parler pour que ça fasse un effet de rappel. On est ainsi fait qu'on a tellement d'informations que c'est de la désinformation. Ils ont compris ça. Vous avez vu quand il y a des conflits. Ils nous balancent toutes les informations. On n'arrive plus à suivre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Oh, mais on a informé les gens. Oui, mais il y a tellement d'informations. Donc, c'est de la désinformation. Donc, on a besoin d'avoir des informations, je dirais, un peu nettoyées. Si vous regardez la persécution dans les journaux, il y en a un peu en France, où ils sont un tout petit peu moins consensuels que les Suisses. Suisse, on a de la peine hein, à parler de ça. Nos journaux, ils en parlent très peu. En France, ils en parlent de temps en temps. Il y a un attachement, surtout au travers de l'Église catholique, mais ils le font. Donc on doit avoir cet élément de nous rappeler ces choses. Alors, chaque année, il y a l'index de persécution. Donc vous avez vu au début, il y a 50 nations. Et chaque année, il y a un questionnement de se dire, mais où en est la persécution dans ces pays? Et Portes Ouvertes et d'autres œuvres y travaillent pour savoir où on en est. Alors, c'est vrai que si on regarde, actuellement, c'est toujours la Corée du Nord qui a la place numéro 1, mais ça reste très isolé. C'est pas, je dirais, ils s'enferment, bien qu'ils fassent des rencontres, comme aujourd'hui avec Donald Trump, hein, on a entendu les nouvelles. Voilà. Mais disons, il y a d'autres pays, et le problème numéro 1, c'est l'islamisme radical. Ça, il faut le reconnaître pour tous les chrétiens, comme au Nigeria ou bien au Pakistan. Et puis au Sri Lanka, qui est réapparu dans cette liste. C'est quand même beaucoup hein, quand un pays apparaît. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, il n'y a rien. Mais quand c'est régulier, on a des informations sur ces pays. Et puis quelque chose qui est nouveau, c'est des pays comme le Laos, le Bangladesh, le Vietnam, le Bhoutan. Mais là, ce n'est pas l'islam, c'est le nationalisme, qui est aussi du poison. On a testé, le siècle passé, nos parents, arrière-grands-parents, ont testé ce que ça donnait en Europe. En Inde, il y a un travail de fond qui s'est fait de 2004 à 2014. Il y a eu un mouvement nationaliste qui est passé maintenant au pouvoir, mais pendant 10 ans, il y a eu un travail de fond. Ils ont envoyé 600 000 extrémistes qui ont radicalisé les enseignements. En Suisse, ça ferait 600 personnes hein, à l'échelle. Mais c'est quand même 600 personnes que vous envoyez dans votre pays, c'est du poison, hein, que vous allez influencer au niveau de l'enseignement, des enfants, des gens, et on va s'habituer à un discours, si on veut bien, extrémisme, parce que le nationalisme invite à ça. Et aujourd'hui, en Inde, les chrétiens sont ciblés, mais il y a aussi les musulmans, les minorités, qui sont ciblées par cela. Et dans d'autres pays, par exemple, au Sri Lanka, vous devez être bouddhiste. En Malaisie, vous devez être musulman. C'est comme si on décidait en Suisse, on doit être protestant. Et tous les autres, on les met en arrière. Alors pour nous, ça paraît complètement, on dit, mais c'est pas possible. Oui, mais nous, on a 700 ans de travail, d'histoire et de formation démocratique, si on veut bien. Et surtout 700 ans de présence chrétienne dans ce pays. Il ne faut pas inverser les choses. Paul et Barnabas retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est leur premier voyage missionnaire. Donc ils font à peu près 2000 kilomètres, ça se passe en 48-49, et ils reviennent par le même chemin, c'est-à-dire dans un sens, ils mettent en place des mouvements, ils lèvent, donc ils voient des disciples qui se forment, et en repassant, ils reviennent pour les encourager. Lors de leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas ont prêché dans beaucoup de villes. Et puis il y a eu toutes sortes d'effets. Certains, ils ont pu rester, d'autres, ils ont dû partir tout de suite. On les a agressés, on leur a acheté des pierres. Des fois, ils ont pu évangéliser longtemps. Et aujourd'hui, le travail missionnaire, si on se renseigne, il se passe de la même manière. Dans certains pays, il y a une avance, et puis dans d'autres, ça recule. On sent bien qu'il y a des mouvances. Et puis, il y a des pays comme la Chine, par exemple, où on se dit non, mais c'est un continent. Donc on dit non, mais au nord, ça se passe beaucoup mieux. Oui, mais au sud, il y a eu ça. Et c'est très difficile quand on parle de la Chine ou de l'Inde, qui sont des continents. Donc c'est difficile d'arriver vraiment à avoir une vue d'ensemble. Un petit garçon avait l'habitude d'aller frapper à la porte de son père. régulièrement, il venait pendant que son père travaillait, et puis il demandait une chose ou l'autre. Et puis, il repartait. Et un jour, le père entend le son à la porte et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh, rentre, mais qu'est-ce que tu veux ?»« Rien. » »« Mais qu'est-ce que tu désires ?»« Rien, je veux juste me mettre là, de côté, et puis jouer. » Le père s'est rendu compte que pour l'enfant, ce qui comptait, c'était juste d'être dans sa présence. Et si vos enfants font ça, je pense qu'on est légèrement réjouis. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand on a goûté la présence de Dieu, on devient accro. Et ça ne se soigne pas. Ça empire. Et quand on peut donner ça à nos frères et sœurs chrétiens, persécutés, l'occasion de se retrouver, d'être dans un lieu protégé, de pouvoir sentir cet amour de Dieu, à ce moment-là, je pense qu'on a fait déjà un bon travail. Parce qu'ils vont revenir. Bien sûr qu'il y aura la persécution, les difficultés, mais cet amour nous pousse à revenir. Quand on aime quelqu'un, on ne dit pas « ta lettre d'amour, je l'ai lu qu'une fois, je la lirai demain ». Faut pas exagérer. Quand on lit la parole de Dieu, c'est la même chose. « Ah, j'ai lu mes deux chapitres. » C'est bien. Tu avais le temps? Oui, mais non, mais je lis deux chapitres par jour. Ah bon. Donc tu sais quand si l'amour de Dieu. Pourquoi tu n'en lirais pas trois aujourd'hui? Ah, mais j'ai pas le temps, puis demain. Donc on a la tendance à faire comme ça avec Dieu. Mais l'amour de Dieu, il n'est pas comme ça. Donc quand nos frères et sœurs peuvent goûter cette présence, ça nous encourage aussi de leur dire « continue ». C'est notre travail. Ça a changé un petit peu à Portes Ouvertes. Ça fait longtemps que je les connais, si on veut bien. Au début, c'est amener la parole de Dieu. Puis maintenant, c'est amener la parole de Dieu, mais amener des cours, amener des moyens d'encouragement, aller les visiter sans nécessairement amener quelque chose. Il y a des visites, des voyages d'encouragement. On va les fréquenter pendant une semaine, vivre avec eux. Ça a changé. On s'est rendu compte qu'on n'est pas simplement des machines à évangéliser. On est des êtres humains et on est à l'amour de Dieu, on a besoin de le vivre. Premièrement, encourager. Et deuxièmement, ou à l'inverse, comme vous préférez, prier. Et si on veut qu'ils puissent soutenir le coup, si on veut bien, ils ont besoin de nos prières. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce que c'est la prière qui est efficace. Et quand on voit, je pense que vous avez prié tous pour que le mur tombe, quand le mur est tombé, on a tous pu se dire, ben j'y ai participé. On a participé à la chute du mur. Et on continue de participer à la chute d'autres murs qui tomberont aussi. On peut avoir la foi de dire que l'islam va tomber. Oh non, non, c'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est possible. Pourquoi tu pries si tu ne crois pas ça? Donc Dieu est un Dieu de défi. Moi j'aime prier comme ça, me dire c'est possible. 70 ans ça a mis pour le mur. Non, pas 70 ans, ce n'est pas vrai parce qu'il n'était pas là. Donc, 30 ans. Donc, c'est Dieu qui nous lance des défis. Est-ce que tu crois ce que tu pries? Oui, moi, je crois que c'est possible. Autrement, il faut qu'on boive le café tout de suite. Si on n'a pas cette audace de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu... C'est possible. Paul et Barnabas disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on témoigne, quelqu'un qui se convertit. Bien sûr que Dieu nous bénit, et c'est juste, c'est biblique. Mais on peut avoir des difficultés, même ici, en Suisse aussi. Il n'y a pas d'en aller à l'étranger. Mais chez nous, ça va rester encore assez léger, espèce de religieux bigot, je ne sais quoi. On va se détourner de nous, mais disons, ça reste encore. Donc on doit être dans notre manière de présenter l'évangile, on doit être réaliste. Quand on vient à Christ, on ne met pas nos pantoufles. Quand on vient à Christ, on s'équipe et on rentre dans une armure. Ah, non, c'est pas la retraite, hein. Ça sera au ciel. Donc, Paul et Barnabas parlent d'expérience quand ils avertissent les nouveaux convertis. Leur dire oui, tu viens sur un chemin, c'est un chemin. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit ? Donc, dès le début, les chrétiens, depuis le début de l'histoire du christianisme, les chrétiens font partie de cette bataille et les chrétiens souffrent. Ça fait partie de la marche. Et nous constatons de manière tout à fait simple et lucide qu'aujourd'hui, la souffrance augmente. 200 millions, mais il y a aussi beaucoup plus de chrétiens. Mais la souffrance est toujours là. Est-ce qu'il n'y a que cela à présenter ? Ah ben non, parce qu'on aura un évangile morbide, hein, si on n'avait que ça. On se flagelle, et puis voilà. Non, il y a une autre espérance de nouveau, parce que Dieu, bien sûr qu'il y a la bataille, Jésus-Christ a passé à la croix. Si on arrête là, comme dit Paul, l'évangile, il est inutile. Si on s'est arrêté au Vendredi Saint, vous êtes d'accord ? Ah ouais, d'accord. Vous êtes avec moi ? Oui. Si on s'arrête là, mais heureusement, Dieu nous délivre. Et c'est ça qui fait notre force. C'est pas d'être fier, non, c'est d'être sûr que Dieu nous délivre toujours. Pas toujours quand on le veut, nous, mais Dieu nous délivre toujours. La petite différence, c'est le temps de Dieu. Ça, on a des fois un peu de peine avec cela. Il n'est pas nécessairement suisse, je crois pas. Alors là, je vous mets quelques petites questions que les pasteurs ou les anciens dans des églises d'autres nations doivent se poser. Par exemple, si on était en Corée du Nord, on va parler à quelqu'un. Première question, comment puis-je vivre ma foi sans parler à personne ? Nous, on dit, tu rentres chez toi, puis tu témoignes. Tu dis à ta maison ce qui s'est passé. Mais dans ces pays-là, ils rentrent chez eux, ils témoignent, puis ils sont morts le lendemain. Ils seront plus vite au ciel. Les spirituels diront Alléluia. Ouais, d'accord. C'est une manière de voir. Moi, sinon, je me réjouis du ciel, mais je ne suis pas pressé nécessairement d'y aller. Deuxième question. Dans des pays où vous devez éviter la confrontation avec les chrétiens, pourquoi ils se marient en Kabylie dans une cave ? Pour ça. Il ne faut pas déranger. On nous dit des fois, oh mais ils l'ont bien cherché. Les chrétiens, ils l'ont bien cherché. Mais des fois, ils ne cherchent rien du tout. Ils veulent simplement vivre leur foi chez eux. Donc quand on nous dit ils l'ont bien cherché, c'est que les gens ne connaissent pas du tout le sujet. Une autre chose, dans un pays, un régime où on a l'impression que les yeux sont partout, comment on se réunit ? Comment on fait ? On n'a pas de réponse. Le travail de Portes Ouvertes et d'autres œuvres de ce même genre, c'est d'être là, de dire vous avez des projets, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On va les visiter du clandestinement, on va leur amener peut-être de l'argent, des moyens de subsistance, on va créer un puits, on va venir pour les aider, mais on va les aider à passer à travers, dans la mesure du possible. Et puis une dernière question, c'est si je veux partir du pays parce qu'actuellement c'est trop fort, où j'ai mes enfants. J'étais en Égypte il y a quelques années, et puis il y avait un appel. En fait, un appel. Tous les années, il y a une ouverture des États-Unis où on peut obtenir un permis rapide, plus, je crois, 20 000 à peu près. C'est un arrangement pour aller vivre aux États-Unis, en tant qu'Égyptien. Mais c'est un appel difficile à résister pour un jeune qui est en formation, ou bien pour un jeune couple qui a des enfants. Je dis, quel est l'avenir pour mes enfants en Égypte ? Et c'est un des problèmes pour les pasteurs et les responsables d'église, d'avoir des jeunes qui partent, qui vont se former, puis qui en général ne reviennent pas. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas spirituels. Non. On ne sait pas ce qu'on fera à leur place. Hein. Si vous savez qu'en rentrant, vous avez des problèmes, je ne suis pas sûr, à moins qu'il y ait une conviction profonde de Dieu. Là, on est pas, là à portes ouvertes, on n'est pas là pour leur donner ce qu'ils doivent faire. Hein. On les laisse choisir et être guidés par Dieu. Parce que Dieu guide justement chacun. Quand on demande dans ces pays difficiles, je dis, voilà ce qu'ils nous demandent. Ne priez pas pour que la persécution s'arrête, mais pour que nous restions fermes dans la foi et que notre témoignage soit fort, afin que beaucoup d'autres trouvent la foi en Jésus. Voilà, je pense que c'est déjà des gens qui ont fait un cheminement. Hein. C'est vrai que, voilà, nous on voudrait d'abord, un, que la persécution s'arrête. C'est normal, parce que ce n'est pas une situation qu'on souhaite à personne. Et puis on voit que non. C'est pas, je ne dis pas qu'ils sont heureux de vivre là-dedans, mais ils ont fait une sorte de choix. Et pourquoi ? Ben voilà. Ils nous amènent, l'Église persécutée nous enseigne à garder la cible, chercher premièrement le royaume de Dieu. Alors, on va juste voir quelques deux pays, comme c'était prêt. Donc, l'Algérie est toujours un peu une situation actuelle un peu bizarre, puisque le président, pour l'instant, n'en finit pas de dire qu'il va mourir. Et voilà, il est toujours là, le président Bouteflika. Il a 81 ans, ça fait des années qu'il est malade, mais il est toujours là. Il y a eu des votations en 2016, une révision de la Constitution, et puis ils sont actuellement en train de la mettre en place. Et puis on peut se dire, mais est-ce que pour les chrétiens, ça change les choses? Est-ce qu'ils ont plus de liberté? Est-ce que c'est un questionnement qui est là depuis, depuis ce temps où le président, entre guillemets, on ne sait plus trop comment il dirige. Alors en Kabylie, c'est une nouvelle de février, une nouvelle église algérienne a été mise sous scellé à Oran, donc. Depuis la fin de l'année dernière, plusieurs communautés ont été fermées par les autorités du pays, aussi dans le sud et en Kabylie. Donc, c'est une région. La Kabylie, c'est une des régions donc, où on a le plus de chrétiens actuellement. Le but est d'en limiter le nombre, résume le pasteur évangélique Youssef Yacob. Donc, on dit que ce n'est pas tout à fait si simple que ça. L'Algérie n'est pas tout à fait dans la situation qu'on aurait souhaité. Attendez, c'est vraiment du très très sensible. C'est comme quand on regarde un film quand il y a un décalage du son, hein. C'est pas très agréable, excusez-moi. Malgré cette pression sur la communauté chrétienne, on constate dans le pays une ouverture à l'évangile. C'est pour ça qu'on n'a pas, le retour par nos nouvelles, on est obligé d'avoir des gens sur le lieu. La foi chrétienne progresse en Algérie. La minorité chrétienne, particulièrement en Kabylie. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que les chrétiens cherchent des pistes à comment vivre leur foi, en guillemets, à l'algérienne. Et ça, je trouve très intéressant. Vous avez remarqué comme on est des fois maladroit avec une autre société. Hein, on a des principes, nous, Suisses, puis on parle avec même un Italien, on dit des choses, ils nous regardent. Dans la foi, c'est un peu la même chose. Bien sûr que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Bien sûr que le Saint-Esprit. Mais dans la vie de tous les jours, des fois, on est maladroit. Parce qu'on n'a pas le même contexte. Et on doit avoir cette approche. La difficulté, ça reste l'intolérance religieuse. Spécialement pour les gens qui viennent au christianisme, donc qui quittent l'islam. Ça veut dire exclusion de la famille, intimidation, menaces de la part d'islamistes radicaux, diffamation, mépris, pression exercée sur le lieu de travail. Donc pour les nouveaux convertis chrétiens, c'est difficile et c'est reste difficile. Farid est un chrétien d'une cinquantaine d'années qui vit à Alger. Après sa conversion, ses beaux-frères ont commencé à le persécuter. Ils ne pouvaient accepter que le mari de leur sœur se soit converti à la religion des mécréants. Ils ont tout fait pour séparer Farid de ses fils, de peur qu'ils ne choisissent eux aussi la fausse voie. Ils ont donc poussé leur sœur à demander le divorce pour cause de conversion. Puis ils ont amené les ses fils à prendre le parti de leur mère. Comme la justice le fait chaque fois, dans le cas de divorce, on soutient systématiquement la partie musulmane. Farid a été séparé de force de son épouse. Ses fils majeurs ont choisi de rester avec leur mère. Je vous lis ce qui est marqué. J'étais avec ma femme devant la juge pour une audience de conciliation. Ma femme lui a dit qu'elle n'accepterait jamais de rester avec moi si je ne renonçais pas à ma foi en Jésus-Christ. La juge a tenté de me convaincre d'accepter ce chantage, mais j'ai opté pour Jésus-Christ. On dit Amen, hein? C'est vrai. C'est là qu'on voit que Dieu cherche des hommes courageux. Les disciples, si on veut bien, le point commun des disciples à travers les siècles, c'est le courage. Au départ, on est saisi par l'amour de Dieu, puis après, c'est comme si on ne peut plus en lâcher, comme j'ai dit au début. Et ça nous donne d'avoir des hommes et des femmes courageuses qui vont tenir ferme pour la vérité, coûte que coûte. Il y a deux ans, on a eu à la journée Portes ouvertes à Yverdon, vous étiez peut-être, il y a eu un homme qui est venu parler, un Algérien. Quelqu'un lui avait dit cela. Il y aura une église par village en Algérie. Alors lui, il a eu un petit doute quand même, chrétien, il s'est dit oui, mais une église par village. Il n'a rien dit. Vous savez, quand on n'est pas sûr, on ne dit pas Amen, mais on ne dit pas contre. On dit, oh, il a la foi. Moi, j'ai les foi, puis lui, il a la foi. Quoi. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte, cet homme, qu'il y avait une capacité en Algérie, ils sont mordus de télévision. Et on en voit partout. C'est vrai que si on va dans la ville, on voit des... Attendez, évidemment, excusez-moi. Là. Voilà. Il y en a partout. Et là, il a compris que cette parole était possible. Une église par village. La technique, elle est utile pour ça. Internet et tous ses moyens, bien sûr qu'il y a des choses pas terribles dessus, mais il y a des choses magnifiques dessus. Utilisons cela, c'est magnifique. Ça veut dire de nouveau ce questionnement, est-ce que je suis prêt? Alors là, la question est un peu sèche, hein, parce qu'on se dit tout de suite, au risque d'être emprisonné, bien sûr, dans ces pays-là. Il y a le risque d'être emprisonné parce que vous annoncez, vous distribuez la parole de Dieu. Là, je fais un petit retour sur un pays que vous avez vu dans un film et qui reste un sujet difficile. Vous devriez le reconnaître. C'est un pays qui est au sud de la péninsule arabique. C'est facile, vous avez le nom avant. C'est une région magnifique, des sommets à plus de 4000 mètres, des longues plages de sable. Et les Romains l'appelaient l'Arabie heureuse. C'est la patrie de la reine de Saba. Un beau pays. On y cultive le sol, il est fertile. On peut y cultiver le café, la myrrhe, l'encens. Un sous-sol riche. Un beau pays, le Yémen. Mais, et c'est bien pour ça qu'on en parle, c'est parce qu'il y a un mais. Les conflits entre les 2500 tribus, la division jamais surmontée entre le nord et le sud, ainsi que la déstabilisation exercée depuis des années par l'Arabie saoudite voisine, ont fait du Yémen un des pays les plus pauvres du monde. Alors, je ne vais pas m'arrêter directement sur cette carte-là, parce que c'est le plus explicite. On voit un pays partagé. Il faut savoir que le... le pays, anciennement, il y avait deux parties, qui étaient une partie là et une partie là, donc dans l'histoire. Ensuite, ils se sont mis ensemble, et puis avec le temps, on a eu des volontés ici, cette partie houthiste, ou bien comment ils appellent ça, houdiste, oui, qui ont cherché par des mouvements guerriers, et ils ont pris toute cette partie. Il y a une réaction du gouvernement de l'autre côté, avec des soutiens. C'est pour ça que c'est très emmêlé, parce qu'il y a des alliances derrière. Et puis, je dirais, manque de chance, je ne sais pas si on peut dire ça, Pendant qu'il y avait ce conflit en 2015, il y avait la Syrie. Donc il y avait deux conflits en parallèle, si on veut bien. Un qui a été très médiatisé parce qu'il y a d'autres intérêts économiques. Et voilà, parce qu'il ne faut pas croire que les nations sont nécessairement intéressées par les hommes. Donc là, il y a un intérêt économique entre la Syrie et l'Irak. Et c'est la Syrie qui a pris, en guillemets, l'ensemble des nouvelles. Mais en même temps, pendant une année, deux ans, il y a eu une guerre qui a complètement détruit le Yémen. Et on parle d'une situation catastrophique, avec une infrastructure complètement détruite. Et on pense, parce qu'on n'a pas le moyen de contrôle, que c'est pire que la Syrie. Et quelque chose, parce que quand il y a des fois une bonne, mauvaise nouvelle, il n'y en a pas une, avec, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a un défi humanitaire. Il y a eu un blocus saoudien qui a empêché le soutien et l'arrivée. Les bombardements ont tout détruit, en grande partie, sans limite maisons, hôpitaux. Donc on a un pays à la ruine, mais qui n'est pas médiatisé. C'est une guerre tranquille, sans trop mélanger tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et l'aide, c'est très compliqué. Il faut savoir que le Yémen a été une base chrétienne pour amener l'évangile en Arabie. Qu'aujourd'hui, au Yémen, il y a des non-chrétiens, les anciens, qui démontrent qu'il y avait une présence chrétienne importante. Ensuite, il y a eu l'islam, ensuite, il y a eu le communisme. Donc c'est vraiment un lieu qui a été visité par toutes sortes de cultures. Mais aujourd'hui, il y a cette difficulté qu'on doit voir d'une jeunesse perdue. Là, on est devant des problèmes humainement, difficilement. Et l'Église, dans tout cela, l'Église, elle existe. Comme je vous l'ai dit, avec ses différentes interventions de différentes nations, le christianisme a visité ce pays. Et aujourd'hui, le christianisme est encore là, mais en guillemets d'une manière un peu cachée. Il y a une église de fond, et c'est cette église-là que Portes Ouvertes ou d'autres organisations vont essayer de soutenir, encourager, amener du matériel pour faire que ce pays puisse se relever, avec toutes les autres ONG chrétiennes et autres qui existent, bien sûr. Alors, bien sûr, quand on est devant cela, on peut avoir soit, comme les nouvelles, on éteint le poste, on dit, tant pis, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai assez. Mais il y a en nous l'amour de Dieu qui, lui, comme dit Jérémie, même si on veut l'éteindre, il ne peut pas l'éteindre. Donc, la question, à un moment, une fois qu'on a passé, entre guillemets, à travers ces mauvaises nouvelles, et des bonnes nouvelles aussi, se dire, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est normal, hein? À mon niveau, ici en Suisse. Alors, se renseigner, comme on le fait ce matin, prier. Vous avez, dans le matériel qu'on vous a donné, un bulletin de prière que moi, je laisse toujours dans ma Bible, parce que comme ça, je sais que c'est comme marque-page qu'il est là. Et tous les jours, on peut prier pour ça. Ensuite, on peut chercher des lieux où on prie. Vous avez un groupe de prière ici? On peut très bien intégrer ça dans à la semaine ou les 15 jours, prendre le sujet de prière de Portes Ouvertes ou d'autres qui travaillent dans ce même sens. On peut aussi faire des voyages. Alors bien sûr, ça nous coûte un peu plus, mais après, vous ramenez ça à l'Église, votre vécu. On peut participer à des campagnes. Là, je vous mets un exemple de la dernière campagne qui a eu lieu et qui a eu, donc, ils ont amené, c'est eu plus de 800 000 signatures à l'ONU avec ce jeune Noé et son père qui venait d'Irak. Et puis, il l'a présenté pour dire, mais le Moyen-Orient, le Proche-Orient, il y a une église qui date depuis le début. C'est l'église de ce qui est là. L'église primitive, elle était là, elle n'était pas en Europe. Donc, ils ont rappelé ça à l'ONU. Et même les gens du monde, ils sont sensibles à cela. La souffrance, ça touche tout le monde. Donc, on a ce travail d'être un témoin et de parler de nous. De parler aux autres, de dire... Oui, une église persécutée. Prendre position, on peut écrire. On peut faire des choses à un autre niveau, sans partir, sans y aller. La prochaine rencontre, grande manifestation, c'est le 23 juin à Berne. Ah là, vous avez fait là, hein, vous m'avez dit là, vous avez fait en novembre dernier, au niveau de l'église persécutée. C'est juste, hein? En décembre, oui. 14 décembre. Il y a des manifestations. Et notre rôle, c'est de manifester. Être un témoin. Protestant, c'est pas, ça fait partie de ça, hein? C'est s'élever contre l'injustice. Et ça, c'est notre rôle, hein? On est content quand nous, on a besoin d'aide, quelqu'un se lève pour nous. C'est donnant-donnant avec Dieu. C'est toujours comme ça. Il nous bénit et qu'est-ce que tu fais, toi? C'est l'amour de Dieu qui nous pousse. Hein? Ce n'est pas la loi. Et je voulais finir, puisque je vous ai dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Et c'est vrai qu'il y en a. Heureusement, merci Seigneur. Nous sommes si reconnaissants du soutien que nous recevons de nos frères et sœurs du monde entier. Nous aimerions vous remercier et vous demander de prier pour notre église clandestine et pour les croyants de Corée du Nord. Nous porterons dans nos cœurs votre amour et votre compassion profonde de Corée du Nord. C'est magnifique. On a des gens qui écrivent, on ne sait pas comment elle a fait ça, hein, mais c'est arrivé. Une autre encore bonne nouvelle, et dans un autre domaine, à Mindanao, aux Philippines. Grâce à votre aide, mes enfants et moi vivons dans une maison que nous pouvons appeler la nôtre. Merci aussi pour le cours d'alphabétisation. Ce programme a vraiment changé nos vies. Quand j'ai perdu mon quatrième enfant, j'ai vu comme porte ouverte nous entourer avec amour. Ça nous booste. Donc l'Église persécutée, en retour, on a cela en retour. On fait partie d'un immense corps dont on se rend bien compte quand on est avec des frères étrangers, même si on ne connaît pas leur langue, on sait qu'on est frères et sœurs. On a le même Père et ça nous encourage. Vous savez comment s'appelle cette statue ? L'écoute. Alors, je voulais remercier pour votre écoute. Mais, il y a un mais, on a écouté, et Dieu est là, il nous dit bon. L'écoute, elle est dans une écoute, même attentive, et après c'est la suite. On passe à l'action. Que Dieu vous bénisse, moi je serai à la fin. Derrière la table, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire. S'il y a des questions, il y a des livres. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez la suite, je vous la laisse.